Et la suite de l'information, c'est le journal d'Haïti et des Amériques présenté par Mickaël Ponge. Mickaël, bonjour.
Bonjour Gilles, il est 8h10 à Bogota. Washington avait mis sa tête à prix à 5 millions de dollars. Otoniel, baron de la drogue colombien, est extradé aux États-Unis. 39 morts au moins. Nouveau bilan des affrontements entre gangs au nord-est de Port-au-Prince. On rejoint Franz Duval du Nouvel East dans la capitale haïtienne. Notre dossier du jour nous emmène au Mexique où l'on célèbre aujourd'hui le Cinco de Mayo. Et puis dans une quinzaine de minutes, le journal de la première, ce sera avec vous, Tiziana Maron. À la une, les Guyanais de Saint-Laurent du Maroni qui sont sous le choc après un drame.
Oui, il s'agit de l'assassinat du pasteur de l'église de la commune, tué par arme à feu à son domicile, Michael.
À tout à l'heure, Tiziana, pour en parler. Et bienvenue à tous. Il a tenu à prendre la parole lui-même hier à Bogota pour l'annoncer.
Dairo Antonio Usuga, alias Otoniel. Este delincuente es solamente comparable con Pablo Escobar.
Otoniel, seulement comparable avec Escobar. Otoniel, plus gros narcotrafiquant de Colombie, qui est extradé vers les États-Unis. Déclaration très officielle du président colombien Iván Duque. S'en sont suivies sur toutes les télés les images de convois blindés transportant le chef du clan del Golfo vers l'avion chargé de l'emmener à New York où un tribunal le réclame pour trafic de drogue. Bonjour Marie-Normand.
Bonjour.
Arrêté à l'automne dernier, Otoniel était en prison depuis en Colombie et dans la presse ce matin, eh bien, cet extrait tradition pose question.
Oui, car beaucoup se demandent sur les réseaux sociaux, notamment si ces crimes en Colombie resteront ou non impunis. Semana détaille le casier judiciaire impressionnant d'Otoniel qui comprend des attaques armées, des déplacements forcés de population, des massacres et des viols sur mineurs notamment. Le journal soutient qu'une fois qu'il aura purgé sa peine pour trafic de drogue aux États-Unis donc, et qu'il sera expulsé, il devra répondre en Colombie de ces crimes. Les familles des victimes en doute, note El Espectador. Jusqu'au bout, elles ont tenté d'empêcher l'extradition du baron de la drogue avec un seul objectif, l'amener à dire tout ce qu'il sait sur la guerre pour faire la lumière sur les événements passés, mais aussi pour contribuer à déconstruire le conflit actuel dans les territoires colombiens, rendre possible la transition vers la paix et garantir que tout cela ne se répète pas.
Lui fait la une du magazine américain Time. Lula, l'ex-président brésilien, une interview qui fait beaucoup réagir.
Oui, le candidat à la présidentielle, principal adversaire de l'actuel président d'extrême droite, Jair Bolsonaro, s'offre une longue interview dans l'hebdo américain, deux jours avant le lancement officiel de sa campagne. Il promet de ramener le Brésil au bon vieux temps de sa présidence de 2003 à 2010. Lula affirme vouloir mettre fin au démantèlement de toutes les politiques qu'il a créées en faveur des plus démunis. Autre déclaration, il n'a pas l'intention de mettre fin à l'exploration pétrolière comme un autre candidat de gauche, par exemple, Gustavo Petro en Colombie.
Mais surtout, Marie, il évoque la crise russo-ukrainienne et c'est bien ce qui fait le plus parler au Brésil.
Mais oui, il renvoie la Russie et l'Union européenne dos à dos. Poutine, dit-il, n'est pas le seul coupable. Les Européens n'avaient pas besoin d'encourager la confrontation. Il se moque ensuite du président ukrainien et va même jusqu'à le comparer à l'ancien dictateur irakien Saddam Hussein. The Brazilian Report regrette que ses propos semblent placer Lula et Jair Bolsonaro dans le même panier. Des propos qui s'ajoutent à une série d'erreurs commises ces derniers temps par le candidat qui parle trop, pense Correio Brasiliense. En mettant sur un pied d'égalité envahisseur et envahi, Lula a suscité la colère, même dans son propre camp.
Un faux pas, peut-être, alors que l'avance dont disposait Lula sur Bolsonaro dans les sondages à 5 mois de la présidentielle ne cesse de se réduire. Il est 9h14 à Port-au-Prince, où nous attend à présent le rédacteur en chef du Nouvel East.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
L'actualité haïtienne toujours marquée par les affrontements meurtriers entre les gangs Chien Méchant et des 400 Marozos dans la plaine du Cul-de-Sac au nord-est de Port-au-Prince. Bonjour Franz Duval.
Bonjour Michael.
Une semaine après les premiers chiffres, un nouveau bilan humain et matériel de ces affrontements vient d'être donné.
C'est encore un bilan partiel, c'est la protection civile haïtienne qui a donné les statistiques. Jusqu'à présent, on a pu recenser 39 morts et 8 disparus. Et le bilan est vraiment partiel. Il y a des zones qui ne sont toujours pas accessibles et ce n'est pas facile de faire les enquêtes, ce n'est pas facile de retrouver les corps, ce n'est pas facile même des fois de retrouver les parents pour qu'ils témoignent parce que les gens sont en train de laisser la zone et d'abandonner leurs cadavres et d'abandonner leurs proches qui ont été tués malheureusement.
Après 12 jours de conflit, France, hier toutefois, les habitants de cette zone ont connu une légère accalmie.
Déjà accalmie, oui, mais pour le moment, on ne connaît pas la cause de l'accalmie. Est-ce qu'ils sont en panne de munitions? Est-ce qu'ils sont en redéploiement? Est-ce que l'un des gangs a pris la fuite parce qu'il était très, très attaqué? Je parle du gang de Chien Méchant. Est-ce que les autres se sont repliés pour revenir? Est-ce qu'ils ont été surpris par l'extradition de leur chef, Yon Yon, qui a été extradé aux États-Unis? Ce sont des questions qu'on se pose, mais pour le moment, sur le terrain, on constate effectivement une certaine accalmie.
On va revenir d'ailleurs sur cette extradition. Mais avant, Franz, une des conséquences aussi de cette guerre des gangs, c'est la paralysie du plus grand terminal de stockage de carburant du pays, à l'heure où Haïti fait face à une nouvelle pénurie en plus de carburant.
Pour le terminal de Vareux, qui est le principal terminal de stockage de produits pétroliers de la région métropolitaine encore accessible, parce qu'il y a d'autres terminaux, mais ils sont dans le sud, c'est beaucoup plus compliqué d'accéder par camion et d'en sortir. Pour le moment, Vareux a eu deux types de problèmes. À un certain moment, on tirait dans la zone, alors par prudence, les gens ne faisaient pas le transport de carburant. Mais depuis 3 jours que le carburant est disponible, c'est les camions-citernes qui sont saisis et quelques mètres plus loin après le terminal, après avoir fait le plein. Jusqu'à présent, 10 camions-citernes ont été emmenés par des bandits qui sont sûrement en train de revendre l'essence sur le marché noir.
Et tout ça, Franz, vous pousse à écrire. Haïti subit un crash test grandeur nature dans votre éditorial du jour. Qu'est-ce que vous entendez par là?
Alors, la conclusion de l'édito dit que ce n'est même pas un crash test, c'est un crash tout court. Il y a une voiture, il y a un mur. D'habitude, il y a des mannequins à l'intérieur de la voiture, mais dans le cas d'Haïti, c'est la population qui est à l'intérieur de la voiture. On fonce vers le mur, on est en train de klaxonner en espérant que le mur va se déplacer. Le mur ne se déplace pas. Le gouvernement, par exemple, 13 jours aujourd'hui après le début des hostilités en pleine, n'a toujours pas pipé mot. Pour le moment, la police n'est pas en mesure d'imposer la paix et tout le monde assiste impuissant au mur qui arrive, à la voiture qui va vers le mur. Haïti, c'est ça, ce crash test.
La police haïtienne, en tout cas, Franz, et je reviens sur ce que vous disiez, qui a beaucoup communiqué sur l'extradition du chef de file des 400 Marozo vers les États-Unis, Germaine Joly. Il a été présenté à un juge, on en sait donc un peu plus sur ce que lui reprochent les Américains.
Officiellement, du côté d'Haïti, c'est quelqu'un qui est en prison depuis 2014, qui avait été arrêté dans une tentative de vol à main armée. Il était en prison, il était au pénitencier national, mais il se disait qu'il était toujours en train de coordonner son gang. À un certain moment, les États-Unis avaient procédé déjà à l'arrestation d'un citoyen américain et de 2 citoyens haïtiens qui vivent en Floride et qui avaient tenté d'exporter des armes pour ce groupe. Et c'est cette combinaison, lui en prison en Haïti, ses proches aux États-Unis qui essaient de lui envoyer des armes. Les États-Unis ont arrêté les gens aux États-Unis. Maintenant, ils ont extradé Yon Yon vers les États-Unis. Tout le monde est lié par la même accusation, l'accusation de commerce d'armes, d'accusation d'association de malfaiteurs. Mais il faut dire aussi, le nom du chef de 400 Marozo a été cité dans le kidnapping des 17 missionnaires la dernière fois en Haïti, où il y avait ce kidnapping spectaculaire de missionnaires américains. Ce sont ces deux fils-là qu'on est en train de tirer, l'exportation d'armes et sûrement le kidnapping des missionnaires américains.
Et c'est à lire donc tout ça dans l'édition de ce jeudi du Nouvelliste. Franz Duval, rédacteur en chef, merci. Haïti encore, Marie, avec un article de nos confrères d'Aïe Bopost qui alerte sur une recrudescence de cas de gale.
Oui, c'est un épidémiologiste qui tire la sonnette d'alarme. Il a recensé plus de 1000 cas de gale dans plusieurs localités de la commune de Kenskov, dans le département de l'Ouest. La quasi-totalité des maisons possède au moins un cas, selon les autorités locales. Les malades présentent des signes de démangeaisons, des plaques de boutons sur la peau, précise Aïe Bopost. Alors la maladie, on le sait, ne tue pas, mais certaines lésions peuvent affecter la peau jusqu'à provoquer d'autres formes de maladies. La gale peut être facilement prise en charge si les personnes qui présentent des symptômes se rendent dans un centre sanitaire de santé.
RFI.
Arrêtons-nous à présent au Mexique pour mieux en repartir, Marie, puisque le président Obrador quitte son pays ce jeudi pour une tournée en Amérique centrale.
Oui, arrivé en milieu d'après-midi au Guatemala, nous dit Laura, pour un chef d'État qui n'a quitté son pays que 3 fois, vous le savez, depuis le début de son mandat en 2018. Le président mexicain veut jouer la carte de la coopération régionale pour, entre autres, dissuader les clandestins de traverser son pays pour se rendre aux États-Unis. Et visiblement, le Guatemala est sur la même longueur d'onde. Pour l'Institut guatémaltèque des migrations, qui répond au journal mexicain Milenio, le gouvernement cherche à renforcer les accords avec le Mexique, les États-Unis et le Canada pour une migration sûre et ordonnée, je cite, par le biais de permis de travail temporaire. En fait, il veut s'assurer que ses citoyens puissent bien aller travailler et revenir. Car le Guatemala est très dépendant des remessas, ces transferts de fonds au pays qui représentent officiellement 17% de son PIB, écrit Milenio, probablement beaucoup plus. AMLO est accompagné notamment de son ministre de la Défense lors de ce déplacement. Signe peut-être, espère la CIA Rota, que le Mexique entend jouer à nouveau le rôle de grand frère des pays d'Amérique centrale. Rôle abandonné au cours des années 80 au profit des États-Unis.
Tenemos probado que si hay oportunidades de trabajo en Centroamérica, disminuye.
Nous avons prouvé que s'il y a des opportunités d'emploi en Amérique centrale, nous pouvons réduire ces migrations, disait hier AMLO lors d'une conférence de presse avant ce déplacement. En d'autres termes, les mesures coercitives, a-t-il expliqué, ne sont pas le seul moyen de résoudre ce problème de la migration. Andrés Manuel López Obrador, qui partira pour cette tournée après les cérémonies de ce 5 mai, le Cinco de Mayo, qui commémore dans le pays la bataille de Puebla à une centaine de kilomètres au sud de Mexico, une fête avant tout régionale au Mexique pour honorer la victoire de l'armée du pays sur les troupes françaises de Napoléon III qui tentait alors d'envahir le Mexique. C'était au 19e siècle. On y revient avec Martin Chabal.
La signification du Cinco de Mayo s'est plus ou moins perdue dans le temps et à travers les frontières. Remontons 160 ans en arrière. En 1862, le Mexique est endetté et la France de Napoléon III réclame son argent. Clément Thibault, historien, directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales et directeur du laboratoire Mondes Américains, revient sur ce qui a entraîné la France dans un conflit armé.
Au Mexique, il y a une immigration française assez forte, ce qui fait qu'il y a déjà un historique très long de conflits sur des mauvais traitements à des nationaux français au Mexique, et puis une histoire aussi d'investissement dans ces pays depuis un certain temps, ce qui fait que les intérêts français sont assez présents, et ça a été un petit peu oublié.
Poussé par les conservateurs mexicains, réfugiés en Europe depuis que les libéraux ont pris le pouvoir, les troupes françaises débarquent à Veracruz, au sud-est du Mexique, en décembre 1861. Les Français envahissent le Mexique, ils avancent vite, mais arrivent le 5 mai 1862. Là, la France tombe sur un os. Clément Thibault.
Les Français pensent que ça va être une promenade militaire d'une certaine façon. Ils ont le souvenir de ce qui s'était passé lors de la guerre entre le Mexique et les États-Unis. Donc quand ils s'avancent à Puebla, ils pensent que ce sera simple. La petite différence, c'est que quand les Américains avaient attaqué le Mexique, la conscience nationale était extrêmement précaire encore, alors que Puebla, c'est évidemment tout autre chose.
Replié dans le fort de Guadalupe, sur les hauteurs de la ville de Puebla, les forces mexicaines repoussent l'ennemi. À la fin de la journée, les Français se retirent. Clément Thibault analyse cette victoire.
C'est pour les Mexicains une sorte de grande revanche par rapport à toutes les avanies qu'ils avaient dû subir vis-à-vis des puissances étrangères et notamment des États-Unis. Et c'est pour ça que le souvenir en est resté extrêmement vif. C'est une petite bataille, mais que la mémoire mexicaine a déjà comprise comme l'anticipation de la victoire finale du Mexique contre une grande puissance de l'époque était la France, et a vraiment monté en épingle cette victoire pour en faire un lieu de mémoire très important.
La France prend tout de même Puebla l'année suivante. Napoléon III place l'archiduc Maximilien de Habsbourg sur le trône, mais la mémoire de cette bataille perdure au Mexique. Erika Pani est historienne au Centre des études historiques de Mexico.
Je dirais que ça a d'abord été une fête populaire. Les Mexicains célèbrent le Cinco de Mayo dès l'année suivant la victoire et même dans des territoires occupés par les Français. Le Cinco de Mayo devient une célébration officielle à la fin du 19e siècle et durant une grande partie du 20e, mais elle a beaucoup plus de portée à Puebla. Dans cette ville, la tradition, c'est de faire des reconstitutions historiques de la bataille.
Bien que moment important pour le pays, le Cinco de Mayo n'est pas férié au Mexique. Mais cette victoire a renforcé l'imaginaire d'une nation mexicaine unie. Erika Pani.
Puebla est le noyau de la rébellion anti-gouvernement libéral qui se met en place en 1855. Avec la bataille de Puebla, les forces mexicaines défendent la patrie et cette ville conservatrice prouve qu'elle est autant patriote que le reste du pays. Les témoignages de l'époque montrent bien qu'il y a un symbole fort derrière cette bataille. Avec tout ça, le Cinco de Mayo est une fête qui revendique l'idée que même quand les Mexicains étaient profondément divisés, ils se sont unis et ont résisté à une attaque non justifiée et liberticide. C'est pour ça que Puebla est un lieu de mémoire très important.
Une mémoire qui perdure également dans les chansons traditionnelles. Face aux Français, les Mexicains ont entonné « Au revoir, Dame Charlotte » en référence à Charlotte de Belgique, la femme de Maximilien de Habsbourg. « Au revoir, Dame Charlotte. Au revoir, mon tendre amour. »
Le Cinco de Mayo avec Martin Chabal, une fête aux États-Unis lors de laquelle on exhibe généralement les plus gros clichés entre tacos, guacamole et sombrero. Les États-Unis, Marie-Normand, vous êtes toujours là, où l'on parle toujours des révélations de Politico au sujet d'un possible revirement de la Cour suprême sur le droit à l'avortement. Certains démocrates s'inquiètent de l'érosion plus large des droits des Américains qui pourraient suivre.
Oui, et ils le disent haut et fort à 6 mois des élections de mi-mandat, à l'image de Gavin Newsom, le gouverneur démocrate de Californie. Il s'exprimait hier devant un bâtiment du planning familial de Los Angeles.
Don't think for a second. This is where they stop.
Ne pensez pas une seconde que ça va s'arrêter là, lance-t-il. Attention, vous êtes les prochains sur la liste. Gavin Newsom dit s'inquiéter pour la contraception, pour les mariages interraciaux. Il veut faire amender la constitution de son État pour consacrer le droit à l'avortement, pour le sécuriser. Un référendum devrait être organisé en novembre. Dans cette vidéo partagée par plusieurs médias américains aujourd'hui, il appelle au passage le Parti démocrate à Washington à se réveiller face au drame qui se joue, selon lui, à la Cour suprême.
Et m'est avis que l'on en reparlera, évidemment. Marie Normand, merci beaucoup.
Le journal de l'Outre-mer.
C'est avec vous, Tidjana Maron, bonjour.
Bonjour, Michael.
Et à la une, la Guyane, où un pasteur de Saint-Laurent-du-Maroni a été tué par balle dans la nuit de mardi à mercredi.
On compte aussi 7 blessés, des personnes présentes dans le foyer du pasteur. Dans la même nuit, l'église évangélique où il officiait a été incendiée. Le récit de Maëva Myriam Ponet de Guyane, la première.
Choquée parce que c'était quelqu'un de calme, de gentil. J'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé et pourquoi.
Tout un quartier sous le choc après une nuit très agitée. Aux environs de 22h, 3 hommes armés font irruption dans une maison du quartier et ouvrent le feu, blessant mortellement un homme de 44 ans malgré l'intervention du SMUR et des pompiers. D'autres membres de la famille se trouvent également là. Le bilan est lourd, on dénombre finalement 7 blessés. De nombreux impacts de balles témoignent de la violence de l'agression. L'arme serait, selon des spécialistes, un fusil de chasse. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Aux environs de 2h du matin, les pompiers sont à nouveau appelés pour un incendie dans le même quartier. Une maison qui servait de lieu de culte, aujourd'hui entièrement calcinée. Une église évangéliste qui était dirigée par la victime décédée quelques heures plus tôt. Depuis environ 5 ans, il y officie en tant que pasteur. Un homme sans histoire, selon les témoignages sur place, il venait en aide aux jeunes en difficulté. L'enquête a été confiée à la brigade de recherche, en co-saisine avec la section de recherche de Cayenne.
Cap sur la Martinique, l'intersyndicale de la santé, toujours opposée à l'obligation vaccinale des soignants et à leur suspension, a été sommée par le tribunal administratif de lever le camp installé depuis plus de 6 mois à l'entrée du port. L'intersyndicale réfléchit à la suite à donner à cette décision du tribunal. Serge Arribaud, le porte-parole de l'intersyndicale, avec Pierre-Yves Honoré de Martinique la première.
Le tribunal a simplement demandé aux organisations syndicales de libérer les lieux sous astreinte de 100 euros par jour et que nous avons 5 jours. Donc nous attendons de pouvoir lire tranquillement avec nos conseils juridiques cette décision pour prendre d'autres dispositions. Alors nous pouvons faire des recours parce que ce que nous avons mis en place en moyen de défense du personnel, d'accompagnement social, psychologique pour les agents doit être maintenu.
Et toujours en Martinique, les 4 militants interpellés dans l'affaire du déboulonnage des statues en 2020 ont été placés sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le territoire jusqu'à leur procès. Tous seront jugés pour destruction de biens classés. Pour rappel, 4 statues, dont 2 de Victor Schellcher, avaient été abattues en juillet 2020. Et avant de vous quitter, en Guadeloupe, le nombre de contaminations au Covid-19 repart à la hausse, mais les hospitalisations stagnent et aucun décès n'est à déplorer. Fort heureusement. Bonne journée et à demain.
Merci beaucoup, Tidjana Maron. À demain. Et merci à Hélène Avril qui était à la réalisation de ce rendez-vous d'Haïti et des Amériques aujourd'hui, que vous pouvez retrouver bien évidemment sur toutes nos plateformes de podcast. Très bonne journée à tous.
Rejoignez la communauté de RFI sur les réseaux sociaux. Sur nos pages Facebook, vous pouvez suivre, commenter l'actualité et dialoguer avec vos animateurs préférés. Restez aussi connectés avec nous sur Twitter et découvrez nos dernières images sur le compte Instagram de la Radio Mondiale.